Merci. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de balayer plusieurs échelles de temps et de vous parler de cette mine d'or d'informations sur l'évolution du climat qu'on trouve dans les calottes polaires. Et puis, pour vous planter un peu ce décor particulier des changements climatiques polaires, je vous propose de commencer par parler de ce qui est en cours en ce moment et de vous faire un point sur l'évolution du climat récent, d'abord. Cette photo a été prise l'été dernier sur le survol de la côte nord-ouest du Groenland. Et vous voyez de manière tout à fait spectaculaire toutes ces roches qui émergent, qui étaient couvertes de glace il y a encore quelques années. Donc c'est un endroit où la calotte polaire réagit extrêmement rapidement. Donc ce que je vous propose, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de commencer par les changements en cours. Et pour situer cette fonte que l'on voit ici sous forme de petits lacs, dans un contexte à plus long terme, ensuite de vous montrer à partir essentiellement de l'analyse des isotopes stables de l'eau et de l'air contenu dans les bulles de la glace, de vous montrer les derniers résultats que nous avons obtenus. Alors je dis bien nous parce que ce sont des travaux collectifs avec de l'ordre de 10 à 15 pays participant à ces opérations de forage. Et plusieurs dizaines de scientifiques participant aux analyses. Alors ces résultats, je les présenterai en ce qui concerne les derniers cycles glaciaires-interglaciaires, et puis également en ce qui concerne les instabilités rapides du climat, sachant qu'on a montré récemment que ce qu'on pensait avoir été rapide est en fait brutal. Et en fait, en permanence, il y a un souci d'aller-retour entre ce qu'on apprend des climats du passé et ce qui est pertinent par rapport aux risques climatiques futurs. Parmi les incertitudes majeures sur l'évolution du climat pour ce siècle, et plus au-delà de ça, sur la trajectoire sur laquelle on place notre planète pour les siècles à venir, se posent des questions extrêmement importantes concernant, par exemple, l'amplification polaire du changement climatique. Vous voyez ici, pour un réchauffement moyen de 3 degrés induit par un scénario moyen d'émissions de gaz à effet de serre pour le 21e siècle, un réchauffement polaire en fait qui dépasse 8 degrés pour l'Arctique. Question également importante, à quelle vitesse se produiront les changements? La disparition récente de la glace de mer en été sur l'océan Arctique semble beaucoup plus rapide que ne l'indiquent les modèles de climat. Est-ce qu'ils ont les bonnes constantes de temps? Et puis enfin, incertitude majeure sur le niveau des mers pour ce siècle et au-delà, en particulier par rapport à la difficulté de représenter l'écoulement de ces calottes du Groenland et de l'Antarctique. Alors je commence par vous présenter l'évolution des températures globales depuis 1958, c'est-à-dire en fait entre deux années polaires internationales. 1957 marquant le démarrage de l'installation des réseaux de mesures météorologiques sur le centre du continent antarctique. Ce sont des données qui ont été traitées par la NASA, qui sont très proches des autres synthèses de données météorologiques. Il en existe en gros trois sortes dans le monde. Donc on voit ce réchauffement qui est très marqué sur la péninsule antarctique. Et jusqu'il y a quelques années, on avait une controverse à savoir est-ce que la partie antarctique centrale, antarctique de l'ouest, se réchauffait ou pas. Et très récemment, plusieurs publications font état d'un réchauffement important sur les derniers 50 ans de l'Antarctique de l'Ouest, donc en fait la zone ici grisée parce qu'il y avait peu d'observations. Un réchauffement également marqué sur les continents et en particulier dans la zone arctique, avec des contrastes selon les régions, en particulier du côté de l'Atlantique du Nord. Donc des régions polaires avec une évolution des températures qui est par endroits très supérieure à la moyenne mondiale. Alors un petit zoom sur les pôles, et là je vous fais le point sur quelques publications récentes. Un article de Eric Steck dans Nature, ça devait être en novembre dernier, qui fait état d'un réchauffement donc tout à fait significatif en Antarctique de l'Ouest, qu'on peut observer ici sur la période 1979-2003, période pour laquelle on dispose de mesures de température par télédétection. Donc assez peu de tendance en Antarctique de l'Est, mais un réchauffement très marqué en Antarctique de l'Ouest. Un réchauffement de l'air, mais également un réchauffement des eaux de surface océanique. Et dans cette zone de l'Antarctique de l'Ouest, une accélération de l'écoulement des plateformes de glace flottantes, plutôt liée à en fait un effet de fonte par en dessous de ces plateformes de glace flottantes. Ce qui est représenté ici, c'est ce qu'on appelle la détection et l'attribution du changement climatique. Entre 1900 et 2000, ça doit s'arrêter en 2005 ici, vous avez en noir l'estimation des changements de température pour l'Arctique et l'Antarctique. Donc l'Antarctique, le début de la série est à prendre avec des pincettes, très peu de stations. Et quand on intègre les nouveaux points de mesure en Antarctique de l'Ouest, plutôt une tendance pour l'ensemble du continent à un réchauffement. Au niveau de l'Arctique, une période très chaude dans les années 1930-1940. Au Groenland, aujourd'hui, on est juste au-dessus de ce niveau des années 1930-40. Et en moyenne, dans l'Arctique, on est au-dessus. En bleu, des simulations de modèles de climat, d'un ensemble de modèles de climat qui ne prennent en compte que les forçages naturels. En rouge, la même chose, mais auquel on superpose l'augmentation observée des rejets de gaz à effet de serre. En gros, ce que disent les modèles de climat, c'est que si on prend en compte les facteurs anthropiques, on devrait détecter un réchauffement, ce que les données récentes semblent montrer avec beaucoup de précautions encore à prendre. Et au niveau de l'Arctique, même chose, les modèles de climat simulent quelque chose qui devrait être détectable depuis en gros une trentaine d'années. Donc c'est les premiers travaux qui suggèrent qu'on a un effet anthropique sur l'évolution des températures au niveau des deux zones polaires. Mais vous pouvez également observer que les modèles de climat ne représentent que très mal cette forte variabilité d'une décennie à l'autre qui, elle, est naturelle, c'est-à-dire qui est intrinsèque au forçage naturel du climat et à sa variabilité. Alors, quand on regarde les calottes du Groenland et de l'Antarctique, on a des calottes qui ont un fonctionnement extrêmement différent et puis des volumes également très différents. Donc le Groenland, en quelques mots, hein, c'est l'équivalent de 7,30 mètres de niveau des mers si toute la glace continentale fondait. L'Antarctique de l'Est et de l'Ouest, au total, c'est de l'ordre de 56 mètres d'équivalent niveau des mers. Sachant que l'Antarctique de l'Est est très stable, froide, peu réactive, et l'Antarctique de l'Ouest, qui a un volume équivalent au Groenland, est beaucoup plus réactive. Si on schématise une calotte de glace avec son socle rocheux, on a donc une zone d'accumulation, une zone froide où la neige ne fait que se déposer, se tasser et s'écouler. Et ensuite, sur les flancs, une zone d'ablation, où la température, le bilan d'énergie à la surface permet la fonte de cette glace. Donc c'est une zone où on perd de la masse. Le Groenland, en fait, est plutôt situé de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est une calotte qui est affectée par de l'ablation, plutôt à la surface, au bord des fjords et en limite continentale. L'Antarctique de l'Ouest, elle présente des grandes plaques de glace flottante, plateformes de glace flottante, qui peuvent avoir un écoulement très rapide et très différent et essentiellement qui débâclent sous forme d'iceberg. Donc ici plutôt de la fonte et ici plutôt des icebergs. Des estimations ont été faites de l'âge moyen de ces calottes polaires, de l'ordre de 140 000 ans pour l'Antarctique en moyenne et de l'ordre de 40 000 ans en moyenne pour la masse de glace du Groenland. Alors c'est un âge moyen, mais bien évidemment, sur les zones côtières où il neige énormément, le temps de renouvellement est plus élevé. Et sur les zones centrales où l'accumulation annuelle de neige est très faible, on atteint des âges très anciens. Si on a les forêts juste au-dessus d'une zone d'ablation, on peut avoir une résolution qui est de l'ordre de la saison. Il peut avoir de l'équivalent d'un mètre de glace par an. Donc on peut atteindre une résolution saisonnière, mais on remontera sur quelques siècles. Au centre de l'Antarctique, au centre du Groenland, on a des taux d'accumulation faibles. Donc au centre du Groenland, de l'ordre de 20 cm de glace par an. Au centre de l'Antarctique, de l'ordre de 2 cm de glace par an. Donc on voit tout de suite en fait que sur une même épaisseur, qui est de l'ordre de 3 km, on peut remonter beaucoup plus loin vers le passé en Antarctique. Alors je vous ai expliqué que le climat en ce moment change du côté des régions polaires, que certains travaux récents suggèrent que c'est déjà la marque du surplus d'effet de serre et de la réaction du climat polaire à ce facteur anthropique. Les calottes polaires aujourd'hui réagissent déjà à cette perturbation. Ce qui est représenté ici, en fait, c'est une synthèse qui a été publiée dans un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement en 2007. Tous ces résultats sont accessibles en fait en ligne sur le site de l'UNEP. Et vous avez donc là l'évolution de l'altitude de l'Antarctique depuis une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années où on dispose d'un suivi par satellite de cette altitude, avec un amincissement marqué de cette zone de l'Antarctique de l'Ouest et certaines zones côtières de l'Antarctique de l'Est, et à l'inverse d'autres zones qui ont tendance à s'épaissir. Au total, les estimations du bilan de masse de l'Antarctique montrent de plus en plus, à mesure que les études sont de plus en plus récentes, une perte de masse nette du continent antarctique. Autant c'était absolument incertain il y a 10 ans, autant aujourd'hui, toutes les études, et les plus récentes que celles-ci, montrent toutes une perte de masse. Ça veut dire que l'Antarctique aujourd'hui contribue à la montée du niveau des mers. Du côté du Groenland, on a des changements d'altitude qui sont beaucoup plus importants. Certaines zones qui s'abaissent de 5 mètres par an sur les zones affectées par une fusion et un écoulement accéléré. Donc des zones côtières tout autour du Groenland et même dans la partie la plus septentrionale qui s'amincissent, et un bilan de masse qui est très nettement négatif et de plus en plus négatif depuis quelques années. Ce qu'il faut bien dire nettement, c'est que le Groenland se réchauffe essentiellement depuis 1993. Avant, c'était une tendance à une baisse de température. Donc c'est un phénomène qui est relativement récent et on a très peu de recul en fait pour déterminer ce bilan de masse pour les décennies précédentes. Donc c'est vraiment une observation quasiment en temps réel et une grosse difficulté à simuler ces variations-là, parce qu'elles sont en partie dues à des glaciers, comme je vous l'ai montré sur ma première diapo, des glaciers qui s'accélèrent, qu'on ne sait pas encore représenter dans les modèles glaciologiques correctement. Donc aujourd'hui, le Groenland et l'Antarctique forment les masses de glace qui contribuent le plus à la montée du niveau des mers, avec une contribution qui est estimée de l'ordre de 1 mm par an, en moyenne. Donc une fois ce décor planté par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut suivre et la manière dont on peut interpréter ces résultats qui sont vraiment obtenus en temps réel, en particulier par le suivi par satellite, on va changer d'échelle de temps et cette fois-ci on va tirer parti des glaces les plus anciennes que l'on a pu extraire jusqu'à présent. Donc sur une échelle de temps de l'ordre de 800 000 ans en Antarctique et 125 000 ans au Groenland. Ces deux cartes font état des programmes internationaux effectués, prévus ou en cours au niveau des forages glaciologiques dans l'Arctique et en Antarctique. Sur la carte de l'Arctique, vous pouvez voir en particulier le site du sommet du Groenland où deux forages en amicale concurrence avaient été effectués par les Européens et les Américains dans les années 90. Ces forages-là sont fiables jusqu'à un âge d'environ 100 000 ans. Mais pour des périodes plus anciennes, ils sont affectés par des mélanges de couches de glace au voisinage du socle rocheux. Et méfiez-vous, parce qu'on trouve encore parfois dans des livres de cours des enregistrements perturbés de ces forages-là qui ne sont pas exploitables. Donc jusque 100 000 ans, fiables. Et c'est là qu'on a découvert toute cette variabilité rapide du climat en période glaciaire. Un peu plus au nord, à North Grip, le forage le plus ancien disponible à ce jour et qui couvre environ 123 000 ans dans la datation actuelle d'histoire du climat. Donc en fait, on touche un petit bout de la dernière période interglaciaire. Et ça, cette période interglaciaire ancienne, c'est un peu la quête du Graal pour les forages au Groenland. À chaque proposition, on a vendu ça et on a échoué plusieurs fois de suite. Donc au sommet, on a échoué parce que les couches de glace étaient perturbées au fond. On sait qu'on a des morceaux de glace de cette période qu'on appelle les Miens, mais en désordre en fait, pas continu. Ensuite, sur le forage de North Grip, on en a à peu près la moitié de cette période chaude ancienne. Et c'est ce qu'on va rechercher maintenant dans ce nouveau forage au nord-ouest du Groenland, dont je reparlerai en fait à la toute fin de cette présentation. Sur le site de North Grip, on a vraiment eu pas de chance, parce qu'on est tombé sur un endroit qui a un flux géothermique exceptionnellement élevé. On ne le savait pas au départ, mais il y avait une fusion bien au-delà de la moyenne sous la glace. Et la glace la plus ancienne était moins ancienne que ce qu'on espérait, d'après les calculs glaciologiques. Alors au niveau de l'Antarctique, donc, historiquement, le forage de Vostok est très célèbre et a fourni 400 000 ans d'histoire du climat, avec un forage qui s'est poursuivi jusqu'à il y a quelques années, avec de la glace de précipitation ancienne et puis en dessous, de la glace formée par le regel d'un lac très ancien, situé sous 3600 mètres de glace. Donc c'est encore à ce jour le forage le plus profond réalisé en région polaire. Depuis quelques années, il a été concurrencé par plusieurs opérations de forage profonde. Sur le site du Dôme C, les Européens ont obtenu donc 800 000 ans d'histoire du climat. Les Japonais ont obtenu au site du Dôme Fuji, dans le secteur atlantique, 700 000 ans d'évolution du climat. Donc, presque autant. Et ensuite, on a également certains forages côtiers dont je vais parler. Un forage européen dans la terre de la Reine Maud, donc Dronning Maud Land, qui est à peu près l'alter ego en Antarctique des forages du Groenland. C'est dans un contexte d'accumulation de température qui est comparable. Et on regarde vraiment les deux côtés de l'océan Atlantique, entre le Groenland et ce site-là. Et je ne vous présenterai pas de résultats de ce site, ici, Talos Dome, mais quelques pays européens, dont les Français, en fait, viennent de réaliser un forage qui est en fait assez exceptionnel, qui nous couvre peut-être deux, voire trois cycles climatiques dans une région côtière de l'Antarctique et qu'on est en train d'analyser pour le moment. Donc, je vous ai dressé un petit panorama de ce qui est obtenu déjà à présent et le partenariat international des scientifiques intéressés dans cette science des carottes de glace s'est coordonné et a fait émerger des priorités pour les prochains 15 ans, en gros, avec des travaux qui vont être coordonnés avec un ensemble de petits forages pour mieux caractériser l'évolution du climat polaire sur les derniers millénaires, donc vraiment l'échelle décennale, centenniale. Bien connaître la variabilité du climat depuis la dernière période glaciaire avec une très haute résolution sur les derniers 40 000 ans. Et puis les deux gros défis, donc le programme NEEM dont j'ai déjà parlé, remonter au-delà de la dernière période interglaciaire au Groenland. Donc ça a démarré, maintenant il faut un peu de patience pour extraire les 2,5 km de glace et en décoder les résultats. Et puis un vrai défi logistique, technologique, de trouver de la glace en Antarctique plus vieille d'1,5 million d'années. Et je vous montrerai en quelques mots pourquoi c'est si important de chercher des carottes de glace aussi anciennes. Alors cette figure, elle vous présente, elle est un peu chargée, je suis désolée, elle vous présente un ensemble d'analyses qui ont été faites sur les carottes du forage européen EPICA au Dôme C en Antarctique. Donc c'est 800 000 ans d'évolution du climat. Et là, je vous ai épargné l'évolution de la chimie de l'atmosphère, des aérosols qu'on peut également analyser dans cette glace. Donc l'échelle de temps va du présent, le zéro, au passé, 800 000 ans. Sur la figure du haut, vous avez donc l'analyse du deutérium, le rapport deutérium-hydrogène des molécules d'eau de la carotte de glace. Et c'est notre marqueur favori des changements de température passés dans les régions polaires. Donc on peut voir les périodes chaudes interglaciaires interrompues par ces longues glaciations qui, dans tous les cas, ont une durée en moyenne autour de 100 000 ans, même si ça n'est jamais en fait 100 000 ans. Ce qu'on peut également voir ici, c'est qu'on a des périodes chaudes de durée variable, certaines très brèves, d'autres beaucoup plus longues que la période actuelle, jusqu'à environ 30 000 ans, pour cette période qui se produit il y a environ 400 000 ans. Une des surprises pour nous était également d'observer que ces périodes chaudes ont des intensités variables avec les quatre dernières périodes chaudes relativement, du point de vue de l'Antarctique, relativement chaudes, et par contre des périodes interglaciaires de faible intensité avant 400 000 ans. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas encore consensus en ce qui concerne l'explication de ces changements d'intensité. Je vous présenterai les hypothèses que nous avons développées. Alors, on mesure également d'autres paramètres. J'en dirai un mot si j'ai le temps. Par exemple, l'excès en deutérium. L'excès en deutérium est un paramètre qui reflète les effets cinétiques lors de l'évaporation des masses de vapeur d'eau. Donc en fait, ça nous renseigne sur en particulier la température moyenne des océans où s'est formée l'évaporation qui ensuite a donné lieu aux précipitations neigeuses antarctiques. Ce que j'ai représenté également ici en bas, ce sont les mesures faites dans ces bulles d'air de la glace des deux principaux gaz à effet de serre que sont le méthane, ici en vert, et le dioxyde de carbone en noir. On retrouve cette très forte corrélation entre contenu en gaz à effet de serre de l'atmosphère et température passée. Et vous pouvez voir par exemple que pendant les périodes interglaciaires relativement tièdes, entre guillemets, on a des niveaux qui sont intermédiaires aussi bien en méthane ou en dioxyde de carbone. Donc l'information qu'on a sur le climat antarctique, elle est également partagée par un paramètre climatique, le dioxyde de carbone, dont la concentration atmosphérique à ces échelles de temps est essentiellement pilotée par le cycle du carbone et essentiellement ce qui se passe au niveau de l'océan austral. Elle est également partagée donc par le méthane, qui lui est essentiellement produit dans les zones humides, sur les continents, donc qui est plutôt un marqueur du climat dans l'hémisphère nord. Donc on voit par là émerger des marqueurs du climat qui n'ont pas qu'une pertinence pour l'Antarctique, mais qui ont une pertinence à l'échelle de l'ensemble de la planète. Vous avez ici rappelé en fait les trois principaux paramètres de l'orbite de notre planète. Donc l'obliquité, donc l'axe d'inclinaison de la Terre sur le plan de son orbite. Vous avez l'excentricité qui est cette courbe orangée hein, qui mesure l'excentricité de l'orbite terrestre. Et puis un paramètre de précession qui est ici en jaune qui en fait reflète les contrastes saisonniers liés à l'occurrence des saisons par rapport à cette orbite terrestre. On entend parfois dire que les cycles de 100 000 ans sont dus à cette excentricité. C'est faux. Pour nous, les cycles de précession, ils sont essentiellement, les cycles de 100 000 ans, pardon, semblent être essentiellement la réponse du climat à l'obliquité terrestre et à des configurations exceptionnelles de précession, plus très certainement des rétroactions sur l'échelle de 100 000 ans liées à l'albédo des calottes de glace et liées aux variations naturelles des gaz à effet de serre. On pense que l'augmentation de l'intensité des périodes interglaciaires du passé vers le présent est en partie modulée par les variations d'amplitude de l'obliquité terrestre. Vous voyez qu'en fait, l'obliquité a des cycles de 40 000 ans, mais que sur le long terme, on a une modulation d'amplitude sur une échelle de 1,2 million d'années. En fait, on a des battements avec deux pseudo-périodicités très proches. Pour l'instant, ça n'a pas été simulé par des modèles de climat, mais c'est l'hypothèse que nous avons publiée pour expliquer ces variations d'intensité des périodes interglaciaires. Alors, dans les diapos qui vont suivre, je pense que je vais juste expliciter un petit peu les incertitudes sur les estimations des températures passées. Donc, on mesure les isotopes stables de l'eau dans la glace. Comment convertir ça en température? Donc aujourd'hui, on observe, si on prend les 1000 points en Antarctique où quelqu'un a collecté de la neige ou des carottes de glace et qu'on analyse la neige de surface pour chaque point, on observe en fait pour tous ces points une relation linéaire entre la composition isotopique de la neige et la température locale. C'est le fameux thermomètre isotopique. Et cette relation, elle est liée en fait à la distillation des masses de vapeur d'eau à mesure qu'elles se refroidissent. Physiquement, le processus, c'est une distillation. On le simule bien et les modèles de climat suggèrent que cette relation-là est une relativement constante à l'échelle glaciaire-interglaciaire. Donc pour estimer les températures passées, on mesure la composition isotopique de la glace. On la corrige de la composition isotopique de l'eau de mer qui varie lorsque se forment de grosses calottes de glace. Donc c'est une correction qui est extrêmement mineure, de l'ordre de 5 à 10% du signal. Ensuite, on utilise cette relation spatiale On peut également faire des corrections parce que les modèles que l'on utilise pour dater la glace nous permettent d'estimer les variations d'altitude. Donc récemment, en fait, on a ajouté une correction d'altitude pour estimer les variations passées de température. On peut également raffiner ce travail-là, prendre en compte l'excès en deutérium dont je vous ai parlé tout à l'heure, tenir compte des variations de température de l'océan source de vapeur d'eau et faire ce qu'on appelle une inversion isotopique qui, en fait, raffine un petit peu l'exercice précédent. Alors, la figure suivante vous présente cette fois-ci non plus du deutérium en unité de pour mille, mais une température en degrés Celsius, donc du présent vers le passé, et ramenée en anomalie par rapport à la température actuelle. Alors, j'ai oublié de vous le mentionner, mais la température actuelle au dôme C, elle est de l'ordre de moins 55 degrés aujourd'hui. Donc, on raisonne en anomalie par rapport à cette température extrêmement froide. Vous voyez que les différentes méthodes et les différentes corrections sont vraiment du second ordre par rapport à l'amplitude de notre signal. En général, elles sont de l'ordre de 2 degrés. Donc, c'est l'incertitude qu'on donne par rapport à nos estimations de température antarctique. Donc, vous voyez que la dernière glaciation, elle est associée en Antarctique à un changement de température d'environ 9 degrés. Et c'est un refroidissement glaciaire-interglaciaire que l'on retrouve même pour les périodes glaciaires les plus anciennes. On est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. En fait, on sature. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une période glaciaire, il y a énormément de glace de mer, très peu d'humidité qui arrive en Antarctique. Elle est relativement isolée du reste du monde et on a à peu près le même niveau de température à chaque fois. Par contre, sur les périodes interglaciaires, on a toute une zoologie. Et en particulier, j'insisterai sur deux périodes passées. Celle-ci, donc, qu'on appelle l'Éémien ou le stade isotopique marin 5, donc la dernière période interglaciaire, avec en Antarctique un pic qui est presque 5 degrés au-dessus de l'actuel, et ensuite un plateau qui est de l'ordre de 2 degrés au-dessus de l'actuel. Donc une période intéressante correspondant à des conditions sérieusement plus chaudes en moyenne dans cette région. À cette période-là, on a des contraintes pour le niveau moyen des mers. Et le niveau moyen des mers était plus élevé de 4 à 6 mètres par rapport à l'actuel. Si vous voulez voir des plages émerger de l'Éémien, vous pouvez aller dans les côtes d'Armor, sur les Sept Îles, et vous avez des galets et des restes de plages qui sont tout à fait spectaculaires. Un peu plus loin vers le passé, ensuite, on s'intéresse aussi beaucoup à cette période interglaciaire il y a environ 400 000 ans, qui est exceptionnellement longue, qu'on appelle le stade isotopique marin 11, et qui se produit dans un contexte de faible excentricité de l'orbite terrestre, en fait assez similaire à l'excentricité actuelle, qui est relativement faible. Et vous voyez que cette longue période interglaciaire ancienne, elle est aussi associée à un réchauffement progressif qui culmine aussi à environ 2 degrés de plus qu'aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi que je dise, c'est qu'avec les modèles de climat actuels, quand on change l'orbite terrestre et qu'on essaye de voir ce que ça peut donner pour l'Antarctique, il ne simule que très peu de changements, moins de 1,5 degré. Quand on rajoute du CO2, on a une réponse très nette en Antarctique, mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas du tout modélisé, d'avoir des périodes interglaciaires avec des changements de température aussi importants. Il y a deux questions qui sont posées, je reviendrai dessus par la suite. À quel point l'altitude de la calotte a pu changer? Est-ce qu'on a perdu, par exemple, à cette période-là, une partie de l'Antarctique de l'Ouest, avec des conséquences sur la dynamique de l'atmosphère polaire? On ne sait pas, vraiment pas. Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'une partie de ces réactions peuvent être des changements extrêmement importants du transport de chaleur selon les latitudes? Et ça n'est pas exclu. Alors, je vais passer ça, mais juste en un mot, c'est pour illustrer que quand on regarde une analyse spectrale, en fait, donc les propriétés en fréquence des enregistrements de température polaire, la première chose qu'on voit, c'est ce fameux cycle autour de 100 000 ans, mais qui n'a jamais une durée de 100 000 ans. Ensuite, on a un poids très important de l'axe d'inclinaison de la Terre, à 40 000 ans, l'obliquité. Et ensuite, un signal relativement mineur de la précession, qui est lié en fait au contraste saisonnier. Le résultat le plus robuste, qui est indépendant des corrections qu'on peut faire, etc., c'est ce poids très important de l'obliquité terrestre, avec une réaction en température polaire qui est vraiment importante, que les modèles de climat ne simulent pas, et avec un décalage entre le maximum d'obliquité et le maximum de réchauffement antarctique qui est important, qui est de l'ordre de 5000 ans. Donc il fait probablement intervenir des constantes de temps liées à la formation et à la destruction des calottes dans l'hémisphère nord. Ça reste des choses qui sont complètement ouvertes pour le moment. Alors ça, je vais vous passer. Je veux passer un petit moment là-dessus. Il y a eu une espèce de mode dans paléoclimatologie d'essayer de trouver des analogues dans les climats du passé, dans les configurations de l'orbite terrestre passée, par rapport à l'actuel et au futur. En gros, la question, elle est de se dire, si on comprend dans l'ensoleillement terrestre ce qui met fin à une période chaude, donc ce qui nous fait basculer vers une glaciation, mais il est possible de prévoir quand aura lieu la prochaine glaciation. D'accord ? Et il y a eu une controverse assez importante avec certains comme Bill Rudiman, un paléocéanographe américain, qui disait que la dernière glaciation aurait dû démarrer il y a quelques millénaires et que grâce aux émissions, même aux émissions de gaz à effet de serre très anciennes liées à la déforestation, on a pu éviter cette entrée en glaciation. Et puis il y en a d'autres qui mettaient fortement en question cette hypothèse. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces glaces de l'Antarctique ? Ce qu'on a fait ici en fait, et ce qui avait été fait par le passé, vous avez en haut l'échelle de temps de cette période du stade 11 il y a environ 400 000 ans, un interglaciaire très long, et de l'actuel, donc les derniers 30 000 ans, et les futurs 30 000 ans. Première hypothèse, c'est la précession qui est le facteur dominant. Donc la précession joue sur l'ensoleillement en été dans l'hémisphère nord dans ce cas-là. Un minimum d'ensoleillement en été dans l'hémisphère nord permet à la neige tombée en hiver de s'accumuler toute l'année, et avec les rétroactions albédo de la neige, changement de végétation, banquise, c'est comme ça qu'on bascule petit à petit d'une période chaude à une période glaciaire. Si on aligne nos deux périodes de temps par rapport à la précession, vous voyez qu'effectivement, les deux périodes d'il y a 400 000 ans et d'aujourd'hui semblent avoir une évolution de l'ensoleillement qui est assez similaire. Sur une période d'environ 60 000 ans, on retrouve des amplitudes assez comparables. Et si on aligne nos périodes climatiques du forage des pics à Dôme C, on voit la période actuelle ici, le présent qui correspond à un minimum d'ensoleillement, et puis cette période ancienne d'il y a 400 000 ans, la déglaciation correspondante, et puis effectivement on a aligné ce que Rudiman suggérait être les entrants en glaciation. Alors nous ce qu'on pense en fait c'est que l'alignement qui a le plus de sens c'est d'aligner par rapport aux déglaciations, donc aux périodes glaciaires et aux transitions, et on voit dans ce cas-là que ça correspond en fait à un alignement sur non pas l'ensoleillement d'été et la précession, mais sur l'obliquité terrestre. Et on s'aperçoit en fait qu'on n'a pas d'analogie simple au niveau de l'orbite terrestre, que quand les signaux de précession sont en phase, les signaux d'obliquité sont déphasés. Donc toute la question est dans quelle mesure l'un ou l'autre domine. Si on aligne sur l'obliquité terrestre, on voit en fait qu'on semble être plutôt au milieu ce long interglaciaire du stade 11 par rapport à cette phase avec l'obliquité. Le point le plus important et la limite de ce qu'on peut dire par rapport au climat du passé pour le futur, il est là. Il est en regardant cette longue période, il y a 400 000 ans, ce minimum-là d'ensoleillement, il n'a pas été suffisamment marqué pour provoquer l'entrée dans une glaciation. La période interglaciaire a continué. Le suivant, très fort, conjugué à une baisse de l'obliquité, a effectivement contribué à cette glaciation. Comment se situe-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à ce niveau-là, ici. On est à un minimum, effectivement, d'ensoleillement d'été dans l'hémisphère nord. Ce minimum actuel, il est entre celui qui n'a pas provoqué de glaciation et celui qui en a provoqué une. Donc pour le moment, on n'est pas encore capable de déterminer précisément le seuil de précession, si c'est le cas, qui est associé à la fin d'une période chaude. Ce qu'on a publié comme conclusion de cette discussion-là, c'est que pour nous, on ne peut pas attribuer les bascules du climat que à la précession, que à l'obliquité. Il y a une conjonction de phases entre les deux. Et la conjonction de phases entre les deux, elle ne s'ajoute pas, elle ne contribue pas à faire des conditions favorables pour une glaciation pendant au moins 30 000 ans vers le futur. Donc, on ne va pas, dans notre interprétation de ces données-là, on va vers une période interglaciaire exceptionnellement longue suite à l'orbite terrestre et quoi qu'on fasse comme émission de gaz à effet de serre. Alors, une question complémentaire par rapport à ces variations passées du climat, elle est de comprendre ce que nous apprennent ces carottes de glace sur ce qu'on appelle la sensibilité du climat. La sensibilité du climat, c'est une notion fondamentale. Elle est de savoir de combien de degrés notre planète réagit pour une perturbation de son bilan radiatif en watts par mètre carré. Tous les modèles de climat montrent pour un doublement des concentrations de gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de quelques watts par mètre carré en plus, hein, 4 watts par mètre carré en plus, un réchauffement moyen de l'ordre de 3 degrés. D'accord ? Tous les modèles de climat. Est-ce que c'est réaliste ? Qu'est-ce que nous montrent les données du passé par rapport à cette réponse du climat vis-à-vis d'une perturbation radiative ? Alors la première étape, en fait, c'est de comprendre comment la température en Antarctique est liée à la température moyenne de la planète. Alors pour ce faire, on peut faire deux choses. On peut compiler toutes les estimations de température passées à partir des données marines, par exemple, à partir des pollens sur les continents, et estimer la température glaciaire. Au dernier maximum glaciaire, on sait que c'était de l'ordre d'environ 5 degrés en moyenne pour la planète. Et je vous ai dit, de l'ordre de 9 degrés en Antarctique, c'est une relation de l'ordre d'un facteur 2. On peut aussi regarder ce que donnent les modèles de climat. Alors les petits triangles, c'est les simulations pour le climat futur. On impose plus de CO2, en gros, hein, et on regarde ce que donnent ces modèles de climat. Pour le climat futur, si on trace température Antarctique future en fonction de température moyenne globale future, on voit que les résultats s'alignent avec une pente de 1,2, c'est-à-dire une amplification du changement de température en Antarctique, même au centre, hein, sur la calotte, de 20% par rapport à la moyenne globale. Si on regarde à l'échelle glaciaire-interglaciaire, entre la dernière glaciation et aujourd'hui, les modèles de climat ont tendance à s'aligner sur une pente 2, c'est-à-dire un changement de température deux fois plus important pour l'Antarctique que pour la moyenne globale. Dans tous les cas, en fait, dans les modèles de climat, il y a deux zones qui montrent une réponse très forte entre la température locale et globale. La première zone, c'est l'océan tropical. La deuxième zone, c'est l'Antarctique. Les autres endroits de la planète sont affectés par des effets de transport, des effets régionaux, et ne sont pas pertinentes par rapport à la moyenne globale des températures. Donc ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a utilisé cette relation 2 pour 1, pour estimer la température moyenne de la planète à partir de nos archives purement antarctiques. Alors, je ne le montrerai pas, mais on s'est amusé à le faire à partir de données marines et on obtient vraiment des résultats extrêmement concordants. Ce qui est représenté ici, c'est le modèle le plus simple qu'on peut faire pour expliquer ces glaciations. En vert, ce qui est représenté, c'est les variations passées du méthane et du dioxyde de carbone, qui sont des gaz à effet de serre, perturbent le bilan radiatif de notre planète. Et on peut le calculer très précisément. Donc on estime ici, entre période chaude et période glaciaire, un effet qui est de l'ordre de 3 watts par mètre carré, lié aux variations naturelles des gaz à effet de serre. L'autre perturbation radiative globale, elle est liée au fait qu'on forme et on détruit des grosses calottes de glace sur les continents de l'hémisphère nord. Donc on change ce qu'on appelle l'albédo, hein, le rapport entre énergie incidente et réfléchie, pour l'ensemble de la planète. Et on a estimé à partir des reconstructions passées de niveau des mers, leur étendue et donc leur albédo. Donc on a un ordre de grandeur qui est aussi de l'ordre de 3 watts par mètre carré entre une période glaciaire maximale et une période chaude. Évidemment, l'orbite terrestre change, mais l'effet des paramètres orbitaux, il est nul en moyenne globale et annuelle. Zéro, quasiment. Hein. Un pouillème de watts par mètre carré près. Les variations de l'orbite terrestre, elles modulent le cycle saisonnier de l'ensoleillement, sa distribution à latitude, mais quasiment rien en moyenne globale et annuelle. Donc ce qui perturbe le bilan radiatif de la Terre, en fait, c'est essentiellement les calottes et l'effet de serre naturel. Ensuite, on a représenté la température antarctique divisée par 2 comme une estimation des variations passées de la température globale. Et puis, on a pris la sensibilité que donnent les modèles de climat, qui est de l'ordre de 0,75 degrés par watt par mètre carré de perturbation radiative, en noir. Donc, c'est vraiment extrêmement simple, en fait, hein, ce calcul. Et on voit que quand on superpose notre calcul par rapport aux reconstructions de température en Antarctique, on explique 90% du signal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? À l'échelle glaciaire-interglaciaire, l'ensemble des variations qu'on observe, ce sont des rétroactions du climat. Des rétroactions lentes, liées à la formation et à la destruction des calottes de glace. Des rétroactions lentes, liées au cycle du carbone, au cycle du méthane, au cycle du dioxyde de carbone. Et ensuite, des rétroactions rapides, entre guillemets, de la température par rapport à ces perturbations radiatives. Ces rétroactions rapides, c'est lié aux nuages, la glace de mer, l'océan de surface, les continents. Ce sont les mêmes rétroactions qui sont en jeu à l'échelle du siècle maintenant. Donc, un des résultats de ce calcul, en fait, il est de montrer que les rétroactions de l'albédo des calottes et du cycle du carbone, elles sont très importantes. Quand le climat change, le cycle du carbone change et amplifie la perturbation climatique. Les modèles de climat standards hein, pour les travaux du GIEC ne prennent pas encore en compte l'ensemble de ces rétroactions du cycle du carbone. Si on les intègre, la sensibilité du climat, elle est beaucoup plus grande. Pour l'instant, les premiers calculs qui ont été faits montrent que pour un scénario d'émission de gaz à effet de serre donné, un réchauffement de 3 degrés sans la rétroaction cycle du carbone devient de l'ordre de 4 degrés et demi avec le cycle du carbone interactif. Ces données-là, elles sont fondamentales pour tester le réalisme des modèles qui couplent climat et cycle du carbone. Et ça reste encore un défi majeur d'arriver à simuler les variations de méthane ou de dioxyde de carbone à l'échelle glaciaire-interglaciaire. C'est pas quelque chose qu'on sait faire encore aujourd'hui. Et alors un dernier point, c'est que vous voyez ces petits points rouges qui dépassent, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer simplement par l'équilibre radiatif de notre planète. C'est ce qu'il y a en plus. Pour moi, en fait, c'est la marque que ces optimums très marqués de certains interglaciaires sont liés à des réorganisations du transport de chaleur par l'océan et par l'atmosphère jusqu'en Antarctique. Donc cette fois-ci, on regarde autre chose. On regarde une variabilité qui est millénaire, locale, et qui n'est pas liée à ces échanges de rayonnement au niveau de l'ensemble de la planète. Alors cette variabilité rapide du climat, elle est plutôt connue pendant les périodes froides. Alors cette fois-ci, on passe au Groenland, et je vous résume en deux mots tous ces résultats de ce projet North Grip. Donc au Groenland, on remonte moins loin vers le passé. Ici, on est il y a 123 000 ans, et le présent est là. Alors, en très rouge, les estimations des intensités des réchauffements rapides. En multicolore, en continu, la meilleure estimation qu'on puisse faire des variations de température au Groenland depuis le stade 5, le dernier interglaciaire, le maximum glaciaire et la période chaude actuelle. En jaune, je rappelle en fait les variations de l'ensoleillement d'été dans l'hémisphère nord, donc le facteur orbital. Et puis en bleu, les variations du niveau des mers qui reflètent l'extension de la glaciation. Alors, qu'est-ce qui est remarquable ? La dernière période chaude, environ 5 degrés plus chaude qu'aujourd'hui au Groenland. 5 à 2 degrés aussi plus chaude, peut-être un petit peu avant déjà, en Antarctique. Donc une période vraiment intéressante où on a les deux pôles sérieusement plus chauds qu'aujourd'hui. Une entrée en glaciation qui commence comme un long fleuve tranquille, 5000 ans de refroidissement bipolaire. Et dès le début de la période glaciaire, alors qu'on a un volume des glaces qui est encore assez modéré, les premières instabilités rapides du climat. Il n'y a pas de seuil par rapport au volume des glaces. Il n'y a pas de seuil par rapport à l'ensoleillement. Ça a l'air d'être une propriété quasiment intrinsèque au démarrage d'une glaciation d'avoir l'occurrence de ces instabilités rapides. Alors on les appelle les événements de Damsgaard-Oeschger dans la glace, du nom des scientifiques danois et suisses qui les ont découverts. Ils sont formés d'une phase froide suivie d'un réchauffement rapide, un refroidissement progressif, une phase froide, et de nouveau un réchauffement rapide. L'amplitude, on pensait que ça avait une amplitude relativement modérée, mais de nouvelles méthodes de détection des changements de température ont été utilisées et montrent un réchauffement rapide qui atteint 8 à 16 degrés en 50 à 500 ans. C'est vraiment brutal. Le mécanisme qui enclenche ces événements rapides n'est pas connu. Il n'y a pas de cycle. Tous les derniers travaux de datation éliminent l'hypothèse d'un cycle constant à 1500 ans qui avait été évoqué. On n'en voit pas. Les données marines, dans les carottes marines de l'Atlantique du Nord, nous montrent très nettement que les phases froides coïncident avec une baisse de la salinité et un apport d'eau douce lié à la fonte des calottes présentes en période glaciaire. Donc il y a un couplage, calotte, flux d'eau, réaction de l'océan, mais les différentes étapes de ce couplage-là ne sont pas encore totalement élucidées. Alors pour aller un peu plus loin, ça c'est donc la période actuelle chaude, la dernière période glaciaire et les derniers de ces 25 Damsgaard-Oeschger. On a pris la période la plus récente là. Donc en fait, le maximum glaciaire, on a ce coup de chaud qu'on appelle le Böllingalröd. Ensuite, on a cette période froide qu'on appelle le Junger-Dryas. Et puis le réchauffement qui marque la fin de la période glaciaire. Alors ce sont les événements rapides les plus récents, ces deux-là. Ils sont seulement à une profondeur d'un kilomètre et demi dans la glace. Donc ils sont moins compactés que les plus anciens. Donc on peut vraiment analyser nos carottes de glace très finement. En fait, on peut les analyser et on peut même détecter des cycles saisonniers. Donc été, hiver, vraiment d'une année à l'autre. Alors ce qui est représenté ici sur ce graphique absolument illisible, j'en suis désolée, c'est la période glaciaire et ce réchauffement abrupt du Böllingalröd, dont on sait qu'il se produit dans les isotopes de l'eau sur une période d'environ 10 ans. Et en analysant cette période d'environ 10 ans, on a observé que l'excès en deutérium, qui est un marqueur de l'origine des précipitations, ou les poussières, varie d'une année à l'autre. Donc c'est même pas d'une dizaine d'années à l'autre, c'est littéralement sur une période ici de 3 ans, 1 an ou 3 ans, pour les 3 dernières instabilités, qu'on a une bascule de la circulation atmosphérique polaire. On a essayé de regarder s'il y avait des précurseurs. C'est-à-dire, dans notre carotte de glace, on a la température locale, la quantité de neige, l'origine de la précipitation, puis on a aussi les poussières, le sel de mer et les poussières continentales. La première chose qui bouge, en fait, c'est les poussières continentales, qui pour nous viennent du désert de Gobi en Chine. Ensuite, l'origine de la précipitation polaire, et après, on a la température qui augmente, la quantité de neige qui augmente. Donc vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est regarder l'anatomie de ces changements rapides. Et ce qui semble, c'est que la première chose qui change, c'est la circulation atmosphérique tropicale au niveau des déserts asiatiques. Et très rapidement après, d'où vient notre neige, l'origine de la précipitation polaire, et ensuite on a l'ensemble de cette instabilité qui se met en place. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres instabilités avant celle-ci. Donc ça a l'air d'être vraiment un scénario qui est relativement constant et qui remet en avant pas uniquement le rôle de l'océan dans le déclenchement de ces instabilités, mais ce couplage étroit entre instabilité de l'atmosphère, amplification très probablement par la glace de mer et le moteur lourd de ces changements qui est la dynamique océanique par derrière. Toutes ces instabilités rapides du climat, on les voit maintenant en Antarctique. Donc vous avez de nouveau ici ces Damsgaard-Oeschger, hein, tous ces instabilités du Groenland. On aligne nos enregistrements du Groenland et de l'Antarctique en utilisant le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre très vite mélangé au niveau mondial, donc on s'en sert comme marqueur stratigraphique. Et en alignant nos carottes antarctiques, il y en a 3 qui sont représentées ici, vous pouvez voir qu'on a numéroté tous ces petits coups de chaud. Chacune des instabilités rapides au Groenland a sa contrepartie, une phase froide au Groenland, un réchauffement en Antarctique. Quand le Groenland se réchauffe, l'Antarctique se refroidit. Donc en fait, ce sont des événements qui correspondent avec une bascule d'un hémisphère à l'autre, qui est vraiment la marque du rôle de la circulation globale des océans dans ce phénomène. Et l'amplitude du réchauffement antarctique est proportionnelle à la durée de la phase froide. Donc en gros, quand la circulation océanique est peu efficace pour exporter de la chaleur vers l'Atlantique du Nord, on le stocke autour de l'Antarctique dans l'océan Austral. Et quand la circulation océanique se remet en route, retransporte de la chaleur vers l'Atlantique du Nord, petit à petit on prend cette chaleur du côté de l'océan Austral et on la redistribue vers le Nord. Alors en Antarctique, c'est une amplitude d'environ 2 degrés, hein, donc c'est beaucoup plus amorti, c'est beaucoup moins intense et beaucoup moins rapide qu'au niveau de l'Atlantique du Nord. Et grâce à cette signature en Antarctique, en température et en méthane, on a pu détecter ces instabilités rapides, pas seulement sur la dernière glaciation, mais pendant toutes les glaciations précédentes. Sur 800 000 ans, chaque fois qu'il y a une période glaciaire, il y a des instabilités rapides, même il y a 800 000 ans. Même genre d'amplitude, même genre de séquence d'événements, et pas d'effet de seuil très net. Et on n'en a pas de net, pas exactement les mêmes, pendant les phases chaudes. Donc ça semble être une caractéristique des périodes où les calottes de glace réagissent. Alors je vais passer ça. Et puis donc, je reviens sur l'importance de cette dernière période interglaciaire. Donc il y a environ 130 à 120 000 ans, le fameux stade isotopique marin 5, ou l'éhémien, pour ceux qui préfèrent les dénominations continentales. Voilà une moyenne de plusieurs simulations climatiques pour cette période-là, pour l'Arctique. Dans les modèles de climat, l'obliquité qui change, une précession qui est différente, en fait, l'été de l'hémisphère nord qui se produit quand la Terre est très proche du Soleil sur l'orbite, c'est de l'ordre de 20 watts par mètre carré en plus en été, et les modèles de climat réagissent fortement à ce forçage orbital et simulent un réchauffement qui est de l'ordre, ici pour l'été, de l'ordre de 2-3 degrés. Nos carottes de glace, nous, elles nous suggèrent plutôt 5 degrés. Donc c'est intéressant parce qu'il nous semble que, encore une fois, les modèles de climat n'ont pas tout à fait l'amplitude observée pour ce réchauffement polaire. Ça, c'est ce que les modèles glaciologiques simulent. Alors c'est une moyenne de différents types de simulations qui a été faite et qui suggère qu'en réponse à ce climat plus chaud en été dans l'hémisphère nord, il faut s'attendre à une réaction importante, mais pas complète, de fonte de la calotte polaire du Groenland. Donc ces modèles glaciologiques suggèrent la partie sud de la calotte qui aurait entièrement disparu et une calotte sérieusement abaissée au niveau de sa partie nord. Alors là où c'est intéressant, c'est que nos données, nous, on a pas mal de sites où on a de la glace, on pense, de cette période-là, y compris au sud. Donc la réaction pourrait avoir été moins importante. Alors pourquoi ? Bah, par exemple, quand le climat se réchauffe, le Groenland fond. Quand le Groenland fond, il rapporte de l'eau douce dans l'Atlantique du Nord. Et cette eau douce ralentit les courants marins. Et donc ça ne se réchauffe pas aussi vite que quand on ne prend pas cet effet-là en compte. Donc on voit bien là en fait qu'on a dans cette situation climatique passée une période qui est vraiment très bien pour tester le couplage complet calotte, circulation de l'océan, climat. Également une période qui est très intéressante pour le couplage climat-cycle du carbone. 5 degrés de plus sur les continents au niveau de l'Arctique, des zones qui dégèlent, des tourbières qui deviennent actives. Est-ce qu'elles émettent du méthane? Est-ce qu'elles émettent du CO2? Et en quelle quantité? On peut le tester. Donc on a des données maintenant de dioxyde de carbone, de méthane observées. Et je pense que ça va permettre de mettre une limite supérieure à certains scénarios catastrophes qui suggèrent que le dégel de l'Arctique s'accompagne de déstabilisation d'hydrate de méthane, etc. On a une étude de cas typique où on peut tester la modélisation de ces facteurs-là. Alors pour le moment, donc, on a démarré un nouveau forage ici pour essayer d'avoir une contrainte en plus sur l'altitude, l'écoulement de la glace, pour connaître tout le détail de l'histoire du climat. Il y a environ 130 à 120 000 ans. C'est un défi. Alors, on ne part pas complètement en aveugle. On part avec des mesures radar qui nous permettent de suivre des couches de glace d'âge connu. Donc il y a eu des traverses qui ont été faites au Groenland. Ces échos radar sont des réflecteurs, des couches de cendres volcaniques, des couches de poussière. On les suit du forage Grip, North Grip et jusqu'au site de Nem. Et au site qu'on a choisi pour notre forage, on a un fond qui est plat, qu'on n'a pas ce problème de montagne sous-glaciaire. On sait qu'on n'a pas un flux géothermique exceptionnellement élevé. Et ensuite, on sait qu'on a là 500 mètres de glace qui ont plus de 80 000 ans, sur une épaisseur totale d'environ 2,5 km. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans le meilleur des cas, on aura une résolution qui sera de l'ordre de 20 ans pour cette période ancienne. Le coût du projet est de l'ordre de 6 millions d'euros. C'est pas mal indexé sur le baril de pétrole. L'an dernier, ça devenait exorbitant. Là, ça a un peu baissé. Et en fait, le coût de ce projet-là, c'est d'aller sur site, de construire un camp, d'emmener les gens et de ramener la glace. Donc, c'est essentiellement un coût logistique. Il y a 14 pays qui sont associés avec un financement très important américain pour les avions gros porteurs et danois pour la logistique groenlandaise. Alors voilà le camp qui a été construit l'année dernière. Il y avait eu un premier raid sur place en 2007. En 2008, il y a eu 6 personnes, puis 14 personnes, puis 38 personnes qui sont arrivées, alors qui ont mis une tente, puis 10 tentes, puis qui ont construit cette chose. Alors cette chose est le seul lieu chauffé du camp, qui permet des conditions de vie maintenant relativement confortables. Ce qu'on peut voir également, c'est que vous voyez que la surface de neige, elle est un petit peu chahutée. C'est un site qui est très vanté, surprenant par rapport à ce qu'on en attendait. Et c'est un site où on a beaucoup de passages dépressionnaires en été. En fait, on a découvert là récemment, à partir de l'étude des premières carottes, qu'il neige en fait la 4/5 du temps en été. Donc, ça rend les opérations de terrain délicates. Mais au niveau climatique, c'est extrêmement intéressant parce que les autres forages du sud Groenland recevaient plutôt de la neige d'hiver. Donc on aura une information saisonnière tout à fait complémentaire. Alors on a construit une tranchée scientifique. Donc il fait trop chaud. Il fait en moyenne dans cette paroi de glace moins 28 degrés, mais à la surface, on a eu plusieurs jours positifs. C'est quelque chose de nouveau. Ça apparaît seulement depuis une dizaine d'années. Mais à 2,5 km d'altitude, ça fond et ça regèle. Donc pour avoir une température suffisamment froide, on descend à 6,5 m sous la surface. Donc vous voyez, le travail, c'est porteur lourd. Ensuite, on a fait plusieurs forages superficiels. Donc là, c'est celui qui a permis de démarrer le trou de forage profond avec un carottier léger. Et puis ensuite, le carottier lourd a été mis sur place. Les premières carottes, donc là, c'est de la neige en fait. Hein, c'est pas encore de la glace compactée. On est descendu pour l'instant à 106 mètres de profondeur, ça fait déjà à peu près 350 ans. Et puis, donc, vous voyez, les carottes, on les a récupérées en septembre, et on a déjà fait les premières analyses, et elles sont très intéressantes. 1750, 2000, l'oxygène 18 de la glace, alors c'est tout juste sorti du spectromètre de masse non publié, les variations importantes hein, d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre, vous voyez là, c'est tendance importante. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est la comparaison avec les données météo, les données satellitales. Cet épisode chaud des années 1930 qu'on détecte très bien, une période relativement stable des années 1930 à 1990, et ce réchauffement-là dans les années 1993 qu'on capture extrêmement bien, un signal qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe, par exemple, du côté de la baie de Baffin, donc juste à côté de ce camp. Donc on a pas mal de conditions réunies pour avoir de chouettes résultats. Reste à extraire 2,5 km de glace dans les meilleures conditions, et l'expérience passée des forages profonds montre qu'on a toujours des surprises. Donc en guise de conclusion, je vous ai montré à quel point en fait ces carottes de glace sont des archives qui sont exceptionnelles, à la fois du climat polaire mais aussi pertinentes à l'échelle globale, par rapport à la composition atmosphérique et aussi par rapport aux instabilités rapides du climat. Il reste pas mal de défis. Hein. Caractériser le spectre complet de variabilité polaire, la variabilité du dernier interglaciaire, et puis aller au-delà d'un million d'années. Parce qu'avant un million d'années, on sait qu'il y avait des petites glaciations tous les 40 000 ans. Et depuis un million d'années, plutôt des grosses glaciations et longues tous les 100 000 ans. Et on ne sait pas pourquoi. Alors une des questions clés, c'est est-ce qu'on a des variations au long terme du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On n'en voit pas sur 800 000 ans. On s'attendait à avoir une tendance à la diminution. C'est ce que les gens avaient publié avant comme hypothèse. On ne l'a pas. Donc je pense qu'on va vers des surprises sur le cycle du carbone à l'échelle géologique, en fait. Et puis, ce sont des données qui sont aussi très importantes pour le réalisme des modèles de climat, pour le réalisme des modèles d'écoulement de la glace. Et si je peux résumer en un mot ce que montrent ces comparaisons, les modèles actuels semblent sous-estimer l'ampleur et la vitesse des changements climatiques, en tout cas passés. Merci de votre attention. Alors en fait, en regardant bien, je ne l'ai pas montré ce graphique-là, mais je me doutais qu'il y aurait peut-être une question. Donc là, j'ai un zoom en fait sur, en Antarctique en tout cas, hein, ce stade 5, avec la phase glaciaire, le réchauffement, le pic et puis le plateau. Et quand on regarde bien en fait, et ça c'est le méthane, qui est plutôt le marqueur hémisphère nord, et on a donc une phase où l'Antarctique se réchauffe, le méthane monte relativement peu, et ensuite, au moment où l'Antarctique commence à se refroidir, le méthane augmente brutalement. Donc ça ressemble à une bascule, en fait, interhémisphérique, hein, probablement pour cette petite période-là, hein, ce petit pic de température. Et ce qu'on vient de trouver, en fait, tout récemment, c'est une réorganisation, en tout cas en Antarctique, de l'excès en deutérium, donc qui, pour nous, marque d'où vient la température de formation sur l'océan de notre pluie, notre neige. C'est le changement le plus abrupt qu'on a sur 800 000 ans. Ça se produit en 30 ans. Donc en tout cas, du côté de la dynamique de l'atmosphère près de l'Antarctique, la réorganisation la plus rapide ici, hein, qui correspond à cet optimum-là, ça se produit en 30 ans. Voilà. L'échelle de temps pour l'ensemble du processus, donc ce plateau, c'est 2000 ans à peu près, et cette phase froide, c'est plutôt de l'ordre de 4000 ans. Donc c'est à cette échelle de temps-là, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir des marqueurs côté dynamique océanique. Voilà. Je sais pas ce qui... Vous avez des éléments nouveaux ?
30 ans, on va avoir un sujet. J'ai une petite question juste pour le projet NEM.
Oui.
Sur la courbe. On voit dans le récent une augmentation de l'amplitude du signal.
Oui. Alors en fait, on a une augmentation des valeurs des étés et des hivers. Alors c'est lié d'une part à la découpe de la glace. On coupe tous les 2,5 cm. Au début, 2,5 cm, c'est quelques semaines, et puis après, c'est un mois, et après, c'est quelques mois. Donc, on lisse un petit peu le signal. Ça, c'est l'échantillonnage. En plus de ça, on a de la diffusion. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les événements de neige ont chacun une certaine composition isotopique selon l'histoire de la convection, d'où vient la neige, etc. Et quand les couches de neige tombent les unes au-dessus des autres, en fait, il y a un échange, il y a une diffusion moléculaire, en particulier dans la partie poreuse du névé. On a des gradients de température jour-nuit, été-hiver. Donc on a des cycles en fait de sublimation, de recondensation, qui effacent une partie de cette variabilité. Et c'est ce qu'on voit sur les dernières années assez nettement. Donc on peut essayer de le modéliser, de le corriger pour avoir gardé la même amplitude. Et quand on le fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces valeurs très élevées-là, elles restent. C'est-à-dire que ces valeurs très élevées depuis 1993, elles doivent coïncider avec des étés très chauds. Ce que montre la détection des couches de gel, de fusion hydrogène, donc de fonte, et ce que montrent aussi les données des stations automatiques déployées depuis en gros 1990 dans ce secteur du Groenland. 2003 a été une canicule aussi, en fait, dans cette zone-là, par exemple. Canicule record. Hein. J'espère que la glace de l'Éémien qu'on aura ne sera pas entièrement formée de fusion hydrogène. C'est une possibilité, en fait. Mais c'est une information climatique assez exploitable. Nombre de jours, enfin proportion de la neige qui est affectée par du regel, ça donne une idée sur le temps passé à plus de 0 degré sur place. Et c'est une info climatique exploitable.
adopté cette décision. C'est à propos des reconstitutions, enfin des, la tentative de comparaison de l'interglaciaire actuel par rapport à celui d'il y a 800 000 ans, je crois, avec les députés et
oui.
Les précessions.
Oui, 400 000 ans, oui.
Dans le modèle que vous développez,
oui.
On serait parti pour quelque chose de long.
Oui.
Alors, est-ce que c'est un argument pour dire que ce que fait l'homme, ça va vraiment être encore plus catastrophique que prévu, puisqu'on va pas vers une baisse? Ou est-ce que c'est un argument pour certains pour dire que, enfin, bah, puis même, si on compare à il y a 800 000 ans, ça montait encore de la façon?
Alors d'abord, le contexte n'est pas un pour un, hein, c'est ce que j'expliquais, on n'a pas une analogie simple, mais moi je suis vraiment convaincue que l'ensoleillement actuel ne montre pas des étés suffisamment frais dans l'hémisphère nord pour provoquer une glaciation. Il y a une tendance au refroidissement depuis 8000 ans dans l'hémisphère nord qui est connue, hein, qui reflète cette diminution lente de l'ensoleillement d'été. Moi je pense vraiment qu'on va vers un interglaciaire exceptionnel. Et d'autre part, par rapport à la perturbation anthropique, on dit souvent que le dioxyde de carbone a une durée de vie de 100 ans, mais vous savez que c'est faux. Sur les émissions actuelles, il y en aura bien 30% qui seront là dans 1000, 10 000 ans. C'est ce que les derniers travaux montrent. Et en fait, quand certains, comme Didier Payard ou LSCE, essaient de simuler le devenir à long terme du CO2 et son interférence avec les cycles climatiques, il montre que dans les scénarios où on émet vraiment beaucoup d'énergie fossile ce siècle, hein, ce qui est encore possible, c'est même probable, on pourrait même sauter une glaciation à venir. C'est-à-dire que la perturbation anthropique, ce n'est pas simplement un clin d'œil sur 100 ans. On modifie vraiment profondément le cycle du carbone. Les puits de carbone aujourd'hui sont saturés. La perturbation, elle va rester pendant très longtemps. Et elle va interférer sur le long terme, même avec une décroissance exponentielle, hein, dans l'atmosphère, avec l'ensoleillement et ses prochaines opportunités de glaciation. Il y a eu 4 travaux dans le monde qui ont porté là-dessus, et tous montrent cela. C'est-à-dire qu'on pourrait même faire sauter une glaciation. Ce sont des prédictions difficiles à vérifier de son vivant. Donc.
C'est le carbone qui va durer un siècle ou deux. Enfin, je parle de l'émission.
Le pic d'émission. Oui.
Parce qu'après, il n'y a plus de charbon à voler, donc ça s'arrêtera. Va rester dans l'atmosphère plusieurs dizaines de milliers d'années.
Ben aujourd'hui, on a la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui restent dans l'atmosphère. Hein. C'est de l'ordre de 46%, précisément. Ce qu'on pense, c'est que dans un climat plus chaud, les puits de carbone seront moins efficaces proportionnellement. Donc cette fraction va augmenter. Et cette fraction va rester tout à fait significative à l'échelle de temps de 1000 ans ou plus. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on fait maintenant sur les prochains 20-30 ans, là je ne parle pas de climat du passé, c'est vraiment sur quelle trajectoire on met cette planète, mais pas seulement pour 100 ans. Et quand la Commission européenne réfléchit à ce qui est un seuil dangereux pour l'évolution du climat, elle se fixe une limite de réchauffement de 2 degrés ce siècle, tout en sachant que 2 degrés au maximum qu'elle accepte en théorie hein, ce siècle, ce sera 3 degrés celui d'après. Voilà, c'est vraiment ça la difficulté, c'est d'éviter des effets... désagréable, mais pas seulement à 20 ans ou 100 ans, sur l'intégralité des conséquences de ces perturbations.
Une question. Concernant l'anticipation avec le modèle, puisque tu disais que le modèle était sous-estimé, en fait, d'une certaine façon, les anticipations, justement, au niveau des limites qui sont fixées, qui sont donc arbitraires de toute façon, on parle d'Europe.
Oui.
Ça veut dire que finalement, ils sous-estiment complètement, enfin, potentiellement, ils sous-estiment complètement ce qui peut les dangers, l'amplification du signal. Ou est-ce que ça reste des valeurs qui sont raisonnables?
En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les modèles de climat, ils n'incluent pas nécessairement toutes les rétroactions. Par exemple, les rétroactions liées aux aérosols, les rétroactions liées au cycle du carbone et l'océan profond. Les rétroactions liées à l'écoulement rapide des calottes de glace, par exemple, ne sont pas intégrées pour l'instant. Donc on a une réponse nécessairement partielle, puisqu'on n'a pas tous les processus amplificateurs intégrés. Je pense que c'est surtout ça la réponse. C'est-à-dire que les modèles, en fait, représentent une partie des processus en jeu, une partie importante. En fait, un gros défi au niveau, par exemple, du GIEC, hein, c'est que le GIEC donne des incertitudes qui sont, je pense, assez réalistes, donc assez larges. Et le vrai défi, c'est d'utiliser, je pense, ces données sur le passé, puis toutes les données sur le climat actuel, hein, qui sont très précieuses, les observations par satellite, etc., pour arriver à mettre des limites inférieures et supérieures à cette incertitude. Et je pense qu'on va assez rapidement réussir à mettre une limite inférieure, c'est-à-dire exclure que le climat soit très peu sensible au CO2. Les éruptions volcaniques sont des cas typiques, hein, perturbations radiatives, et puis on peut suivre très bien la réponse. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre une limite inférieure un peu plus solide. Par contre, la limite supérieure, eh ben, faut inclure les rétroactions métal, les rétroactions dioxyde de carbone. C'est plus difficile, en fait.
Et est-ce qu'on a une idée d'où peut venir un peu ce biais? Parce que, par exemple, si on prend le papier de Cazenave qui prend l'élévation du niveau marin, les observations correspondent au plus mauvais scénario modélisé. Et pourtant, on n'est pas dans les conditions d'entrée du modèle. Alors, est-ce qu'on a une idée où chercher
Alors, je pense qu'il y a si on regarde sur 10 ans, parce que c'est ce qu'ils ont fait, en fait, on a une superposition de variabilité entre guillemets naturelle. Par exemple, combien d'événements El Niño vous avez ou combien d'éruptions volcaniques vous avez dans cet intervalle-là, entre guillemets, hein. De tendance à plus long terme qui est liée à cette sensibilité du climat et cette réaction du niveau des mers. La réponse des derniers 10 ans ne sera pas la même que les prochains 10 ans. On peut très bien voir 10 ans où ça ne se réchauffe plus. Tout le monde se dit « ouais, on est sauvé ». Puis en fait, non, c'est simplement les rétroactions, la variabilité naturelle qui fait ça, puis ça repart à la hausse. Donc moi, je reste très prudente sur une échelle de temps de 10 ans. Et c'est pour ça que j'aime bien cette échelle de temps qui est plus longue, parce qu'elle intègre vraiment les rétroactions à relativement long terme, au-delà de la variabilité décennale. Mais l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre, l'évolution de la température, on est sur la gamme haute des scénarios qui étaient jugés il y a 10 ans catastrophistes, qui se trouvent être réalistes en fait. Ça, c'est un fait.
Merci.
Merci.